Wow, quel moment précieux, quel moment fort on a vécu. Je vous propose juste qu'on puisse applaudir pour acclamer Dieu, pour sa bonté, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire. Je suis tellement heureux d'être là et de pouvoir partager ce message. Quand j'avais 7 ans, avec ma famille, on a déménagé à Marin, dans un appartement où il y avait une cheminée. Et plusieurs fois, on s'est retrouvés tous en famille autour de ce feu. Et souvent, ma maman voulait qu'on dise des sujets de reconnaissance ou bien les sujets de prière pour les semaines à venir. Je regarde mes sœurs en souriant. Et oui, c'était vraiment des moments forts et authentiques. Je trouve qu'autour d'un feu, il y a vraiment quelque chose de différent. Vraiment comme un moment hors du temps. Et avec Shelly, ma femme, depuis 3 ans et demi, on a décidé de retrouver un peu cette atmosphère de feu. Et du coup, des fois, on met un feu de cheminée sur la télé, mais ça n'a pas tellement le même effet. Du coup, ces derniers temps, on s'est dit, ah ben, pourquoi pas aller en forêt, acheter des bûches, pourtant on n'a pas de cheminée, mais d'aller et juste faire un feu ensemble, sans natel, vivre un moment authentique. Juste un moment hors du temps. Et du coup, on essaye de faire ça régulièrement, juste pour nous couper du quotidien et vivre ces moments authentiques. Et à un moment, j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse ça seul avec Dieu, pour vivre un moment profond avec lui. Et du coup, j'étais tout content. J'ai prévu de faire mon meilleur feu. J'ai pris plus d'allume-feu que prévu. J'ai pris du papier journal, du carton en plus, des bûches, j'ai pris ma Bible, mon carnet d'écoute, mon ordi, enfin voilà, j'étais bien équipé. Je suis allé dans la forêt et là, j'ai commencé à construire pour faire le feu, pour faire mon plus beau feu. J'ai mis, j'avais pris aussi une pive sèche, des allume-feu, du papier journal, histoire de faire un gros feu, un feu qui envoie, un bon feu pour Dieu. Et du coup, je suis là. Et je l'allume, et puis ça prend bien, je suis content. Il y a l'allume-feu qui prend les pives, carton, papier journal, le petit bois que j'étais allé chercher dans la forêt. Tout prend, mais pas les bûches. Je me dis, oh non, ça y est, il doit y avoir une erreur. J'ai peut-être trop écarté les bûches, je les resserre, je mets du papier journal, l'allume-feu, je rallume. Ça part bien, je suis content, je suis confiant, mais les bûches prennent pas. Je me dis, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à chaque fois que je me déplaçais, j'avais pris ma chaise de camping, à chaque fois que je me déplaçais, il y avait la fumée qui me venait dans la tête. À chaque fois, je pouvais presque jouer à traîne-traîne mon balai avec la fumée qui me suivait. C'était presque pas réel. Et à chaque fois, je disais, non, mais c'est vraiment pas possible. C'est le moment que je dois passer avec Dieu, un moment privilégié, et je rate mon feu. Pourtant, j'en ai déjà fait des feux sous la pluie, quand on est parti en trek, dans la neige. J'ai l'habitude avec la cheminée, on en a fait plusieurs, comme je vous ai dit. Puis là, j'arrive pas, je rate mon feu. Et plus le temps passe, plus la luminosité baisse. Et j'avais tellement de confiance en partant que je n'ai pas pris ma lampe frontale. Donc je me retrouve là, dans le noir, au milieu de la forêt, sans feu. Et du coup, là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Et là, Dieu, il commence à me parler. Et du coup, je sors mon ordi et je m'asseye sur cette chaise de camping. Et pendant que je suis en train d'écrire, je réfléchis et je me dis, mais imagine quelqu'un se balade. Et tu vois un gars seul dans le noir, dans la forêt, avec une chaise de camping en train d'écrire sur son ordi. Ça fait vraiment flipper, ça fait vraiment flipper. Heureusement, il n'y a personne qui est passé. Ça fait penser un peu aux hackers qui sont dans des endroits reculés d'Islande, au Groenland, en train de chercher des trucs. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas moi qui ai piraté le compte Facebook de François, mon grand-père. Peut-être que vous avez reçu un message, mais ce n'est pas moi. Enfin, bref. J'étais seul dans la nuit avec mon ordi et j'ai vraiment senti que Dieu, il me disait que le feu nous représentait, me représentait, te représentait. Dieu, il a envie qu'on brûle pour lui. Il a envie qu'on soit en feu pour lui. Si le feu, il n'a pas de flamme ni de braise, comme dans mon histoire, comme dans ce qui s'est passé, on n'a plus envie d'être là. J'avais juste envie d'une chose, c'était de rentrer. On n'a plus envie d'être autour de lui. Et Dieu, il ne désire pas qu'on soit un simple petit feu. Il veut qu'on soit un grand feu avec des grandes flammes, qu'on éclaire les personnes autour de nous, comme ce verset bien connu, ces versets dans Matthieu 5, 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Dans le verset 14, Jésus nous dit « Nous sommes la lumière du monde. » Et dans le temps de Jésus, il n'y avait pas d'électricité. Ce n'était pas un interrupteur que tu cliquais et l'ampoule s'allumait. C'était une flamme. Dieu, il a envie qu'on soit une flamme, qu'on brûle pour lui. Un feu de camp, c'est toujours, comme je vous ai dit, un moment authentique, un moment fun, un moment où on rigole, où on partage, un moment entre amis. C'est rare qu'on fasse un feu quand on est seul. Un moment, des fois, en famille. Et je ressentais vraiment que Jésus, il voulait plus que des flammes. Il voulait des braises. Il voulait qu'on soit des braises brûlantes. Quand le feu est vraiment chaud, les braises viennent et elles durent longtemps, longtemps, longtemps. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait, mais vous êtes autour du feu avec des amis, vous discutez. Alors, c'est un peu les sujets de base, comment ça va la famille, le travail, l'appartement, éventuellement la voiture, enfin, etc., etc. Et ça, c'est le moment un peu des flammes. Et quand ça fait un moment qu'on discute, on a passé un peu les sujets classiques, et c'est là où viennent les discussions profondes, les discussions authentiques, le moment des braises, c'est là où ça va en profondeur, où on sort des « salut, ça va, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ?» Ah oui, voilà, etc. C'est vraiment un moment profond. Et Dieu, il a envie de la même chose. Il n'a pas envie d'une discussion de flamme, d'une discussion superficielle, juste d'une prise de nouvelles, mais il a envie de quelque chose d'authentique. Il a envie des braises. Il a envie des braises dans notre cœur. Et c'est comme quand on cuisine. Quand on cuisine sur le feu, eh ben on met un aliment, je sais pas, sur les flammes. Puis après, on le regarde et on se dit « Ah, il est cuit, voire même, il est peut-être un peu carbonisé, un peu noir, j'ai laissé un peu trop longtemps. » On arrive, on le coupe et on voit à l'intérieur qu'il est cru. Mais si on met le même aliment sur les braises, là où il y a vraiment la vraie chaleur, alors il va cuire en profondeur et il sera cuit entièrement. Dieu, il n'a pas envie d'une relation de surface qui s'arrête à l'extérieur, mais il a envie d'une relation profonde avec nous. Relation profonde avec nous. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux une relation de flamme ou une relation de braise ? Est-ce que tu veux une relation juste de prise de nouvelles ou une relation qui passe à une étape supérieure où tu peux aller plus profondément avec Dieu ? Et Dieu, il désire qu'on brûle pour lui. On le voit dans Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est plus qu'un simple verset qu'on retrouve chaque année dans le calendrier. C'est vraiment un désir de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur, c'est vraiment les braises. Et Dieu, il désire qu'on brûle pour lui. On le voit aussi dans Apocalypse 3, 16, où là, c'est un verset qui ne passe pas par quatre chemins, où c'est noté « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Je vais le relire. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » C'est tellement fort les mots qui sont utilisés. Et le mot « tiède » se dit en grec « chliaros », désolé pour la prononciation. J'ai cherché ce qu'il voulait dire dans ce contexte. Et ça veut dire une âme instable, passant tristement de la froideur à la ferveur de l'amour. Une âme instable, passant tristement de la froideur à la ferveur de l'amour. Pardon. En lisant ceci, je me suis dit qu'en fait, être tiède, c'est avoir des hauts, mais c'est aussi avoir des bas. C'est à des moments, tu peux décrocher la lune pour Dieu, et des fois, pendant plein de semaines, tu l'ignores, voire même tu l'évites. Peut-être que tu prends des temps avec Dieu, peut-être que tu ne le consultes pas, et etc., etc. De toute façon, notre relation avec Dieu, elle est faite un peu de haut et de bas. Mais je pense qu'être tiède, ce n'est pas juste une tiédeur un peu constante, une tiédeur moyenne. Si ce n'était pas plutôt la moyenne de nos hauts et nos bas. Oui, on ne peut pas être au maximum à chaque fois, mais on peut toujours un peu essayer d'être dans les hauts. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et la réponse pour être dans les hauts, comment être dans les hauts, comment avoir ce cœur brûlant, c'est noté être bouillant dans ce verset, zestos, comment avoir cette ferveur d'esprit ? Ben, c'est en passant régulièrement du temps avec Dieu. Et lorsqu'on passe du temps à faire quelque chose, notre façon de penser, voire même notre manière d'agir va changer. Si par exemple je suis dans une phase où je fais pas mal de sport, je vais me sentir à l'aise, je vais me sentir bien dans ma peau et du coup mon attitude va changer. Quand on est dans un groupe, je n'ai pas hésité à prendre la parole, je n'ai pas hésité aussi à donner un avis contraire. Je suis enseignant, je vais voir que ma position elle change vis-à-vis de mes collègues si j'ai fait du sport ou vis-à-vis aussi des élèves. Selon les discussions ou discussions qui peuvent être conflictuelles ou pas, mais je vois que ma position change quand j'ai fait du sport. Et ça me fait penser quand le film « Tu ne tueras point » de Mel Gibson est sorti, un très bon film, une histoire vraie, vraiment un peu violent, mais je vous le conseille. Pourquoi je dis un peu violent ? Parce qu'en fait, on voit le personnage principal, le héros principal, sur le front de la Deuxième Guerre mondiale entre les Américains et le Japon. Et en fait, sans vous en dire trop, si jamais vous voulez voir ce film, l'acteur principal, qui a d'ailleurs eu un Oscar, il a choisi d'aller au front, il a été volontaire, il a même insisté, mais sans armes, parce qu'il ne voulait pas tuer. Et c'est ce genre de film, vous savez, vous sortez du cinéma et vous avez presque pris l'identité du personnage principal. Vous sortez du cinéma et j'avais envie de combattre, j'avais tellement de confiance alors que j'ai rien fait. Et on sort et on est vraiment confiant et je suis sorti, il pleuvait des cordes en plus. J'ai dit au revoir à mes amis et là au loin je vois le bus que je dois prendre arriver. Et du coup là je me mets à courir et je vous promets que j'ai jamais couru autant rapidement pour choper mon bus que cette fois-là. Ça n'avait rien à voir le bus avec le film, mais le fait d'avoir été dans cette histoire, ça m'a comme imprégné, ça m'a comme conditionné à tout donner. Comme le gars a fait pour sauver des vies, il a tout donné, ben là j'allais tout donner. Ça a comme changé ma façon de voir. Sûrement que si c'était un film triste, un drame, ben j'aurais même pas essayé de prendre ce bus. Là j'ai tout donné pour le choper. Et j'ai réussi d'ailleurs. Et avec Dieu, c'est pareil. En passant du temps avec lui, on a confiance en nous, on a confiance en Dieu. La confiance qu'on a en Dieu, en fait, est l'indicateur de la chaleur de notre feu. La foi qu'on a est l'indicateur de la chaleur de notre feu. Je vais le répéter, la confiance qu'on a en Dieu, c'est l'indicateur de la chaleur de notre feu qui est dans notre cœur. La foi qu'on a, c'est l'indicateur de la chaleur de notre feu. Dans le sens où un feu ardent va impacter directement ta confiance en Dieu et ta foi positivement. Comme on a vu juste avant, les flammes, c'est momentané, c'est un peu superficiel, tandis que les braises, c'est profond. Ça change carrément ta vision des choses, comment tu te positionnes. C'est comme, vous savez, quand vous avez un cerf-volant et que vous courez un peu, on sent dès qu'il a pris le vent, on sent d'un coup. Il arrive et il plane. Et c'est pareil, quand on prend du temps avec Dieu, d'un coup, on sent qu'on a une autre position, qu'on a pris du recul, qu'on voit les choses différemment. Par exemple, vous devez prier pour la guérison de quelqu'un. Vous êtes dans un moment de haut, vous avez pris du temps avec Dieu, il y a eu un super moment de louange, vous avez prié, vous avez écouté des témoignages, vous allez vers une personne, vous dites « Ah, pourquoi je peux prier pour toi ?» Elle va dire, ah ben, pour la guérison. Et là, tu vas dire, ok, c'est parti, je vais prier pour toi. Vous priez, vous prenez autorité en toute confiance. Et c'est là. Et après, vous demandez, est-ce que tu es guéri ? Teste, essaye. La personne teste. Si elle est guérie, gloire à Dieu. Et si elle ne l'est pas, vous allez reprier une deuxième, une troisième fois ou plus. Par contre, si vous êtes dans un moment de bas, vous allez vers la personne et comme tout bon chrétien, vous lui dites « Ah, est-ce que je peux prier pour toi ?» et la personne vous dit oui pour la guérison. Et là, vous regardez un peu à droite, à gauche, s'il y a quelqu'un qui n'est pas plus qualifié. Non. Ou elles sont déjà occupées. Et du coup, vous dites, bon, ben, je vais prier pour ça. Et dans votre prière, vous dites, ah ben Seigneur, si éventuellement, tu aurais peut-être envie, vraiment si tu le veux, de guérir cette personne, ben fais-le. Et vous faites une brève prière qui coupe un peu vite. Et vous ne demandez même pas à la personne si elle est guérie, de peur qu'elle vous dise non. Et vous passez à la suite. Prendre du temps avec Dieu, ça change vraiment la position qu'on a. Et ça me fait penser à un témoignage. L'année passée, je faisais du foot, juste quelques matchs par demi-saison. Et on m'avait demandé, il manquait des joueurs pour venir jouer. Donc tout content, il y a l'échauffement avant le match. Je vais chercher une balle qui est passée derrière le goal, que je ne dis pas que j'ai tiré. Et je marche dans le champ avec cette balle et je regarde mes copains après tirer. Et pendant que je regarde mes amis, je marche dans un trou et ma cheville se tord. Et vraiment, j'ai mal et je sens que pour courir, ça ne va pas le faire. Et je teste et je vois que ça ne fonctionne pas. Je prie, il n'y a rien qui change. Et finalement, je n'ai même pas pu jouer une seule minute du match. J'étais vraiment, pour être honnête, dégoûté, si je peux le dire. J'étais vraiment écœuré Et voilà, je suis resté quand même jusqu'à la fin du match. Et après, je suis rentré et on en a parlé avec Shelley. Et elle a dit, ben ok, pas de souci, on va prier pour toi. Et on a prié et puis après, j'ai testé. Et j'avais encore mal. Et du coup, je me suis assis sur le canapé et on a juste continué notre vie. On a discuté de comment s'est passé le match, qu'est-ce qu'elle avait fait pendant ce temps et tout ça. Puis à un moment, Shelley a dit, non, mais on ne va pas accepter que cette douleur reste. On ne va pas accepter que cette douleur reste. Et du coup, on a pris vraiment. La prière était devenue plus sérieuse, vous savez. Il y a comme une façon de s'asseoir dans les jeux vidéo, c'est un peu pareil. D'un coup, quand vous devez gagner, vous allez vous pencher sur l'avant. Là, c'était un peu comme ça. On s'est dit, non, là, ça devient sérieux. Et du coup, on prie. Et là, je teste, je fais un tour de la table, un tour de chez nous. Et je vois que la douleur est partie à 80%. Et on se dit, amen, merci Seigneur. Et on reprit, et la douleur, cette fois, est partie à 90%. Et on a reprié, puis le lendemain, j'ai pu aller à l'école sans boiter, sans qu'aucun élève ou aucun collègue remarque que je m'étais foulé la cheville avant. Amen. Et je crois vraiment que Dieu, il veut guérir des gens ce matin, il y a déjà eu des paroles. Et je crois vraiment qu'il veut te guérir ce matin. Et on va prendre un temps pour ça, après le message. Mais je pense vraiment que Dieu, il veut te guérir. Si on revient au message, je m'étais arrêté à la confiance qu'on a en Dieu est l'indicateur de notre feu et la foi qu'on a est aussi un indicateur de notre feu. Ça m'a fait penser à l'histoire de David. Imaginez la confiance qu'il devait avoir en Dieu pour aller volontairement combattre Goliath. Aller volontairement sans armure, sans armes conventionnelles pour aller battre un Philistin, Goliath, qui était imposant physiquement et moralement, qui s'était entraîné à la guerre tout du long. Imaginez la confiance qu'il devait avoir en Dieu. On le voit dans 1 Samuel 17, 32. David dit à Saül, qui était le roi en ce temps, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Il dit que personne ne se décourage. Imaginez la relation qu'il devait avoir avec Dieu pour dire ça. Il a tellement confiance en lui qu'il dit aux autres de ne pas se décourager. Pourtant, il y avait toutes les raisons pour qu'il se décourage. David, il n'était même pas apte à aller à la guerre. C'est pour ça qu'il n'y était pas. Il s'occupait des moutons. C'était qu'un simple berger, si vous me permettez l'expression. Et c'était qu'un simple berger. Mais il avait une confiance en Dieu qui était juste énorme. Et une conviction juste énorme. Que même sans armes et sans armure, il pouvait battre Goliath. Il avait un feu puissant, une flamme puissante, des braises puissantes dans son cœur. Une telle confiance en Dieu. Et ça me fait penser aux feux de forêt. Quand il y a des feux de forêt, ça prend déjà tellement de temps pour essayer de les éteindre. Et même quand les flammes sont éteintes, le feu n'est pas réellement éteint. Dans les racines, ça continue de brûler. Et ça arrive parfois que quelques minutes, heures, jours, voire peut-être semaines, que le feu redémarre, mais revienne à la surface. Un feu qui est dans les racines, un feu qui est dans les racines, un feu tellement puissant que même les circonstances, même les tonnes d'eau, même les canadaires, même toute la force qu'on veut, résiste. Le feu résiste et c'est presque impossible de l'éteindre. Peut-être que vous vous demandez comment et pourquoi David avait cette confiance en Dieu. Et là, on va voir deux points. Et le premier, c'est qu'il s'est rappelé des victoires qu'il a eues avec Dieu, les victoires passées, les bontés de Dieu. On le voit juste avant de combattre Goliath, quand il affirme « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Si Dieu est fidèle avec lui, il n'y a aucune raison que ça change. Dieu est fidèle, c'est noté dans 1 Corinthiens 1, 9. Dieu est fidèle. S'il est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. Et là, c'était déjà des grandes choses de combattre un lion, de tuer un ours. C'était déjà des grandes choses. Bah, Dieu, il sera fidèle encore dans les plus grandes. Et je suis persuadé que David, il avait vécu d'autres choses avec Dieu. C'est clair que s'il avait dit, « Ouais, une fois j'étais là, j'ai calculé le nombre de moutons, j'ai remarqué qu'il y en a un qui manquait. Du coup, j'ai laissé le troupeau, je suis allé le chercher partout. Je ne le trouvais pas. » Et à un moment, je suis retourné en arrière et je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti qu'il fallait que je me retourne et que je regarde un peu plus précisément. Et là, j'ai vu la brebis qui était juste coincée et je l'ai prise. C'est clair que s'il avait dit ce témoignage qui est vraiment chouette et qui est vraiment fort, bah, ça n'aurait peut-être pas convaincu les Israélites qui savaient se combattre et qu'ils pourraient battre Goliath. Moi, je suis sûr qu'il avait vécu plein d'autres choses. Et dans notre monde, je trouve qu'on a tendance à minimiser les petites choses que Dieu nous fait. Les bontés de Dieu, comme ça a été dit. Les petits miracles. Par exemple, avec Shelley, on a déménagé en mi-décembre pour passer d'un appartement 2 pièces à 4 pièces, un appartement plus grand. Du coup, il fallait un peu le meubler. Et on est allé à Ikea, on a acheté pas mal de meubles. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on habite dans un grand bâtiment au 7e étage. Et heureusement, il y a un ascenseur. On arrive et ça tombe le jour où l'ascenseur est en panne. Par miracle, vraiment, il y a un réparateur qui est là au moment où on arrive. Donc depuis le matin, ça ne fonctionnait pas. Il y a un réparateur qui est là et qui nous permet de le prendre et monter nos meubles. C'est vrai que la porte se fermait un peu sur nous, c'était un peu complexe, mais voilà. Mais en tout cas, il n'a pas réussi à régler le problème. Et du coup, il a verrouillé l'ascenseur et ensuite l'entreprise était en vacances. Donc pendant 7 jours, il n'y a eu que 20 minutes où il a fonctionné. Et c'est les 20 minutes où on est venu avec tous nos meubles pour les monter. Merci Seigneur, on n'avait pas prié pour ça, mais là c'est une fois où on voit la bonté de Dieu. Avec mes parents, si d'ailleurs ils peuvent peut-être prier pour vous pour ça, ils ont un ministère, le ministère de la place de parc. À chaque fois qu'ils ne trouvent pas une place de parc, ils prient et par miracle, il y a quelqu'un qui part juste devant eux, où il y a une place qui s'est libérée, où on ne sait pas pourquoi, il y a une place qui est top, qui est parfaite, large, tout, la place rêvée, puis les deux voitures de devant ne la prennent pas, et puis ils peuvent la prendre. C'est vraiment des petits miracles, des petites choses. C'est clair qu'on ne va pas proclamer ça devant Goliath, mais c'est des petites choses qui montrent la fidélité de Dieu, qu'on n'oublie pas la fidélité de Dieu. Moi, je suis enseignant, et il y a une classe vraiment compliquée que j'ai cette année. Et c'est vraiment un défi pour moi et chaque fois que je lis le matin, je prie. Et le nombre de fois où Dieu m'a montré sa main, ou le nombre de fois où il m'a inspiré, où je me suis dit juste avant de faire un exercice, ah non mais fais-le plutôt comme ça, puis du coup ça se passe bien. Ou le nombre de fois où il y a un élève perturbateur, un des nombreux élèves perturbateurs qui est absent, ou qui a une aide qui est ajoutée, ou bien que ma collègue a choisi de changer les places, comme ça, alors que ce n'est pas les vacances, et puis que ça va beaucoup mieux. Le nombre de fois, je pourrais vous dire plein de choses, où Dieu, il agit dans ses journées. Où même quand je suis à bout, même quand je ne le suis pas, il est là et il est fidèle. Il est fidèle dans les petites choses et dans les grandes choses. Et merci Seigneur. Et pour avoir confiance en Dieu, pour combattre des Goliaths comme David, il faut se rappeler des victoires du passé. Ça, c'était le point 1. Et le point 2, c'était aussi passer tellement de temps avec Dieu. On l'a vu avec les feux de forêt. quand on a un amour, on passe du temps avec Dieu, et c'est tellement profond, la confiance qu'on a en lui, une foi tellement profonde que c'est tellement dur de l'arrêter. C'est tellement dur de l'arrêter. Et David, il prenait du temps avec Dieu. On le voit dans 1 Samuel 16. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Saül, il est le roi d'Israël. Et en ce temps, Samuel est le prophète. Et Samuel est au courant que Saül ne sera plus roi et que Dieu va lui dévoiler le prochain roi. Et on lit dans le verset 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu connaissait le cœur de David et il le désire comme roi. Et on lit plus loin, Samuel, il va chez Isaïe, qui était une famille nombreuse. Il voit le frère aîné et il dit, « Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence, à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et on voit dans les versets suivants que Samuel, du coup, il va vers le deuxième fils. Et il se dit, ah ben, cette fois, c'est sûr, c'est lui. Puis l'Éternel lui dit non. Le troisième, le quatrième, il va jusqu'aux sept fils et il dit, sûrement que le dernier, ça devrait être le bon. Je pense qu'il se dit ça dans sa tête. Et non, c'est pas le cas. Et là, Isaïe, il devait un peu se positionner en se disant « Ok ». Et Samuel, il devait se dire « Mais attends, il y a un truc qui cloche ». Et il a dit à Isaïe « Mais est-ce qu'il n'y en a pas un dernier, je ne sais pas, un qui est caché ou ailleurs ?» Et Isaïe lui dit dans le verset 12, dans les versets précédents, que oui, il y en a un qui garde ses brebis. On voit dans le verset 12, Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. L'Éternel regarde au cœur. Il connaissait David. Même s'il n'était pas présent, même s'il était rejeté peut-être par sa famille. Et je me suis souvent demandé, mais pourquoi David, il n'était pas là ? Pourquoi il n'était pas là ? On voit dans le chapitre suivant que David, il a plu à Saül et qu'il devient son porteur d'armes. Et en ce temps-là, le porteur d'armes, c'était souvent les personnes issues d'une bonne famille. Donc si David y vient d'une bonne famille, sûrement qu'il devait avoir assez de moyens pour avoir des gardiens, des gardiennes, des servants, des servantes. David, il n'était peut-être pas obligé de s'occuper des moutons. Et je me suis dit, mais si je me mets à la place d'Isaïe, le papa, et qu'il y a Samuel, le prophète connu, qui est là, qui vient chez toi, et qui te demande de voir tes fils, tu ne vas pas en laisser un de côté. Tu vas appeler tous tes fils pour qu'ils viennent. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé David ? Et j'ai trois hypothèses. La première, c'est qu'Isaïe était peut-être sûr que ce n'était pas David, en le connaissant. Peut-être que c'était une simple erreur de casting, où il était, ah ben non, c'est sûr que ce n'est pas lui, pas de souci, on le laisse s'occuper de ses moutons. Peut-être que c'est David qui devait vraiment s'occuper des moutons parce qu'ils n'avaient pas de quoi se payer un gardien ou comme ça. Et ça, je ne pense pas que c'est une bonne hypothèse parce qu'on voit quand David devient porteur d'armes, il y a un gardien qui vient s'occuper du troupeau. Ou peut-être que simplement David était mis de côté par sa famille. Et ça, c'est fortement possible. Mais en tout cas, dans tous les cas, David, il n'était pas le favori. Il n'était pas le favori pour devenir roi aux yeux des hommes. Mais Dieu le connaissait. Il est noté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David n'était pas le plus grand, le plus fort, le meilleur guerrier, le meilleur combattant. Mais la différence, c'est qu'il connaissait Dieu, et Dieu le connaissait. Qu'on se mette d'accord, Dieu, il nous connaît tous. Il sait même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Mais il y a une différence entre connaître et connaître. Il y a une différence entre, par exemple, une star, j'aime bien le foot, un joueur de foot. Je peux lire toute sa biographie, je le connais. ou bien connaître quelqu'un vraiment précisément. Connaître quelqu'un vraiment précisément. Et j'ai remarqué que parfois on aimerait tellement être connu des hommes qu'on oublie d'être connu de Dieu. On aimerait tellement plaire aux autres qu'on oublie de plaire à Dieu. On aimerait tellement être connu des hommes qu'on oublie d'être connu de Dieu. Et pour être connu de Dieu, on doit passer du temps avec lui. Et je suis sûr que c'est ce que faisait David. Il est dit qu'il passait pas mal de moments seul à s'occuper de ses moutons. C'était un joueur de harpe reconnu dans le pays. C'était un homme au cœur de Dieu. Ce n'est pas noté explicitement qu'il prenait des temps de louange quand il gardait ses moutons. Mais quand on voit les psaumes, le nombre de psaumes qu'il a écrits, et que ce n'est pas juste une petite phase de sa vie, mais que ça recouvre une grande partie de sa vie, je pense plutôt que c'était la pointe de l'iceberg. Et qu'en réalité, il avait une grosse relation avec Dieu. Qu'il avait une grosse relation avec Dieu. Et pour la suite, j'invite le groupe Louange à venir et monter sur scène. On va prendre un chant après. Mais dans ce message, on a vu qu'être bouillant, ce n'est pas avoir des hauts et des bas, mais c'est d'avoir un cœur brûlant pour Dieu. Et pour avoir ce cœur brûlant, il faut se rappeler des victoires du passé et de la bonté et fidélité de Dieu et de prendre du temps profond avec Dieu. Et j'aimerais vous encourager à écrire les victoires passées, ces petits témoignages qui semblent insignifiants. J'ai prié, j'ai eu une place de parc. On avait quelque chose de lourd et bizarrement, l'ascenseur a été réparé juste avant qu'on passe. Ces petites choses, juste de les noter pour se rappeler de la fidélité de Dieu et de prendre aussi des temps profonds et vraiment authentiques avec Dieu. Et j'aimerais revenir sur un verset, celui que j'ai lu plusieurs fois. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Et honnêtement, je pense que David, il avait un cœur brûlant pour Dieu. Il avait un cœur dévoué pour Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur. Et on le voit dans Psaume 27,4, où il est écrit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Je désire ardemment, profondément, un désir profond de tout son cœur d'être proche de Dieu, d'être proche de Dieu. Et j'ai envie de te poser la question. Si Dieu regarde ton cœur maintenant, est-ce qu'il verrait un cœur tiède ou un cœur bouillant? Est-ce qu'il verrait un cœur qui brûle, un cœur de braise, un cœur ardent pour lui? Qu'est-ce qu'il verrait? Et c'est William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, qui a eu un impact vraiment important durant sa vie, qui a dit « Certains veulent vivre près du feu. Moi, je veux être consumé, par lui. » Aujourd'hui, tu te dis peut-être que ton cœur, il ne brûle pas totalement pour Dieu, mais que tu as envie d'avoir ces braises, t'as envie d'avoir cette relation profonde. T'as envie, comme William Booth, de pas juste être proche du feu, proche des personnes qui ont le feu, mais t'as envie toi-même l'avoir dans ton cœur. T'as envie toi-même d'être consumé par lui. Si c'est le cas, je t'invite simplement à te lever à ta place. C'est écrit dans Jérémie 29, 13, et on l'a lu. On l'a lu il y a 2 semaines au culte, et je pense que c'est vraiment une vérité pour nous. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Je vous invite, durant ce chant, de chercher Dieu de tout votre cœur. De chercher Dieu de tout votre cœur. Et je suis persuadé que vous le trouverez. Et si tu sens tu as envie que ton cœur brûle plus, que tu es peut-être là et tu as envie que ce soit là, ou peut-être que tu es en bas et tu as envie d'être là. À simplement vous lever, je vais prier, puis on va enchaîner directement sur le chant. Seigneur, j'ai envie de dire non à la tiédeur maintenant. J'ai envie de prier, Seigneur, pour qu'on puisse avoir ce cœur brûlant pour toi. On a envie de brûler pour toi, Seigneur. Viens, Seigneur, toucher notre cœur, brûler, souffler sur les braises, Seigneur, pour qu'on puisse avoir un regain de chaleur, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, brûle en nous jusqu'à la racine, brûle en nous profondément dans le cœur. On a envie d'avoir cette relation privilégiée, cette relation authentique, cette relation profonde avec toi, Seigneur. Viens, Seigneur. On a envie de plus de toi dans notre vie, plus de toi dans notre cœur. En ton nom, Jésus. Amen.